Lundi soir, on a vu ensemble retrouver la vision de Dieu. Hier soir, on a aussi jeûné et prié pour retrouver l'unité. On a vu hier soir que Esdras a rassemblé, il a rassemblé ses compagnons près du fleuve, et là, avec ses compagnons près du fleuve, il a publié un jeûne. Il a mesuré l'enjeu spirituel parce qu'on est à la période de la reconstruction et Esdras avec ses compagnons va monter, il va apporter des choses précieuses pour l'œuvre de Dieu, mais Esdras sait qu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu sans Dieu. Alors il les a rassemblés près du fleuve. Et pour nous le fleuve aujourd'hui c'est l'esprit. Et on ne fait pas l'œuvre de Dieu sans Dieu, on ne fait pas l'œuvre de Dieu autrement que dans l'unité. Et on ne fait pas l'œuvre de Dieu autrement que dans le jeûne et la prière. Une église qui est bâtie par l'Esprit, dans l'unité, dans le jeûne et dans la prière, eh ben ça c'est forcément une église qui doit avancer. Et c'est ce que je nous souhaite, bien évidemment. Alors, ce soir, on va aller un petit peu plus loin. La vision, c'est une vue sur l'invisible. C'est de voir ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, ce qui n'existe pas encore concrètement, dans une dimension pratique ici-bas, mais qui existe déjà dans les sphères célestes. Ça existe, c'est déjà prêt dans le cœur de Dieu. Et c'est ça la vision, au sens spirituel du terme. C'est ce qui existe dans son plan, c'est ce qui existe dans sa volonté. On va avoir deux axes très simples ce soir. Le premier, c'est de trouver ou de retrouver la vision de l'œuvre de Dieu. Et pour ça, on va rester dans le livre d'Esdras. Et ce soir, on va prendre Esdras, chapitre 3, verset 10. Esdras, chapitre 3, verset 10. Alors ici, le contexte, c'est la reconstruction du temple a commencé, les fondements sont posés. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, les lévites, les fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, ils célébraient, louaient l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dura toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Et si ça s'arrêtait là, ce serait merveilleux. Mais plusieurs des sacrificateurs, des lévites, des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette nouvelle maison. Amen. C'est le temps, c'est l'époque de la reconstruction. La reconstruction du temple a commencé, les fondements sont posés, et il y a toute une génération qui est là, qui s'est levée, qui est rentrée d'exil, et qui se réjouit de ce que les fondations sont posées, de ce qu'un avenir nouveau est en train, non pas d'être proclamé, mais se concrétise par les fondements de cette maison, les fondements qui sont à nouveau posés. Certains chantent, mais malheureusement d'autres pleurent. Et là, encore une fois, le peuple n'est pas. Et malheureusement, si vous lisez le récit d'Esdras, du livre d'Esdras, parce que Esdras, lui, en personne, n'arrive qu'au chapitre 7, mais si vous lisez dans le livre d'Esdras, tout de suite après au chapitre 4, vous allez vous apercevoir que très rapidement, les travaux vont être interrompus. Et que pendant des décennies, ça va être compliqué. On recommence, on arrête, un pas en avant, un pas en arrière, on avance, ils nous ont mis de la pression, on recule, il y a eu ci, on avance, il y a eu ça, on recule, Dieu envoie le prophète Agé, alors on se secoue, alors on y va, et on recule, alors il envoie le prophète Zacharie, alors on y va, et on recule. Et c'est une histoire de 70-80 ans, et c'est seulement au bout de 80 ans que Esdras va monter avec ses compagnons. Et la reconstruction est terriblement compliquée. Parce que si on n'est pas un, on est faible. Et on est faible face aux pressions. On est faible face à l'ennemi. On est faible face à toutes les formes d'opposition qu'ils ont pu rencontrer. Il faut qu'on soit tous un. Sans conflit intergénérationnel. Parce que c'est ça ici l'enjeu. Et ceux qui se souvenaient de la première maison avaient une certaine tristesse, même pour pas dire une tristesse certaine, parce qu'ils pleuraient à grand bruit. Il nous est même dit après, au verset 13, qu'on n'arrivait même pas à distinguer le bruit de ceux qui criaient de joie et le bruit de ceux qui pleuraient. Autant dire que ceux qui pleuraient, ils devaient pleurer fort quand même, hein. Ils devaient être vraiment, vraiment affligés, vraiment tristes, d'une époque passée qu'ils ne voyaient pas se relever, où ce qu'ils voyaient sous leurs yeux ne correspondait pas à leur image, à leur conception de la maison de Dieu, et par conséquent, pour eux, c'était un sujet de tristesse. Et que ce soit reconstruit... Vous savez, frères et sœurs, on n'entre pas dans l'avenir que Dieu a pour nous. On ne voit pas, je parle de vision spirituelle, vous avez compris, on ne voit pas l'avenir tant qu'on n'a pas coupé avec le passé. Une victoire totale et définitive sur le passé. Et ici, cette génération de sacrificateurs, de Lévites qui étaient là, était toujours attachée au passé. Le passé, frères et sœurs, c'est un lien terrible. C'est une entrave terrible. Le passé des églises. Quatre mots, ça fait 40 ans qu'on tourne en rond. Quatre mots, 40 ans. Le passé des églises. Le passé, c'est un lien, c'est une entrave terrible. C'est même un ennemi plus puissant que les ennemis qui se trouvent à l'extérieur. Le passé, c'est un ennemi intérieur. Il y a des gens qui n'entrent pas dans l'avenir que Dieu a pour eux, je parle autant sur le plan personnel que ecclésial, qui n'entrent pas dans l'avenir que Dieu a pour eux, qui ne se saisissent pas de la vie ou de l'œuvre de Dieu, parce que même si intellectuellement ils savent que Jésus leur a pardonné, dans leur cœur, ils vivent encore avec la pensée du jour où ils avaient chuté, où ils avaient péché, où il y avait eu ci, où il y avait eu ça, et intérieurement, parce qu'il y a un lien, ils ne rentrent pas dans l'avenir, dans l'appel, dans la vocation, dans la destinée que Dieu a tracée pour eux. Et comme en plus, il y a des chrétiens mal avisés, qui ont une langue trop pendue, qui font le jeu du diable et qui ne manquent pas de vous rappeler votre passé, ah ben alors là, si en plus il y en a qui m'ont rappelé mon passé, ah ben alors là, évidemment. Et le passé est un ennemi intérieur, un ennemi puissant, qui amène toutes sortes de blocages, toutes sortes de faiblesses. Et moi, ce soir, j'ai vraiment à cœur de prier pour les gens ici qui, dans leur cœur, auront, c'est pas une honte, qui se lèveront ou qui viendront devant puis qui diront, moi, j'ai un souci, j'ai un lien avec mon passé, il y a un truc, c'est plus fort que moi, ça conduit ma vie, ça me hante, ça m'obsède, ça me paralyse, ça me... Il n'y a pas d'avenir tant qu'on n'a pas coupé avec le passé. Et tant que je n'ai pas coupé avec mon propre passé, je ne peux même pas me voir, moi, tel que Dieu me voit actuellement. Il faut que j'arrive à me voir comme Dieu me voit. Et Dieu ne me voit pas dans une conception du passé. Dieu me voit dans une conception d'avenir. Oui, mais tu te rends compte, un tel a quand même fait ça. Et elle avait quand même dit ça. Et du temps du frère un tel, on avait essayé et il s'était passé ça. Et à l'époque du pasteur Intel, on m'a mis ça dans les dents. Et à l'époque de ceci, mais quand même, et encore à l'époque d'avant, l'époque du frère Intel, c'est à peu près la seule période que je me rappelle avec des bons souvenirs. Ah, là, c'était bien. Et franchement, même c'était mieux. Même un bon passé, frères et sœurs, même un bon passé nous empêche d'entrer dans l'avenir. Vis dans ton passé, qu'il soit bon ou mauvais, tu n'as plus d'avenir. Est-ce qu'on peut ouvrir ensemble, s'il vous plaît, Ésaïe 43, au verset 18. Ésaïe, chapitre 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés. Frères et sœurs, vous me regardez, s'il vous plaît. C'est la parole que Dieu m'a demandé de vous dire ce soir, de façon prophétique. Dieu dit à l'église de Manosque, ne pensez plus aux événements passés. Il ne te demande pas si c'est dur ou si c'est pas dur. il a dit « ne pensez plus aux événements passés ». Il ne t'a pas demandé si tu avais envie ou pas envie. Dieu te dit, c'est un impératif, « ne pense plus aux événements passés ». Je vous le dis de façon prophétique, c'est une parole de Dieu pour vous. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Pourquoi ? Parce que le texte n'est pas fini. Parce que Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Et ça aussi, je vous le dis de façon prophétique, je vais faire une chose nouvelle. Et ce n'est pas Stéphane Brion qui va la faire, et Dieu ne va pas la faire parce que c'est Stéphane Brion qui le dit, Dieu va le faire parce que c'est dans sa nature de faire des choses nouvelles. Et nous, on n'a pas de nouveau parce qu'on vit dans l'ancien. Mais ce n'est pas le pasteur. C'est quand on vit dans l'ancien, on ne peut pas permettre à Dieu de faire une chose nouvelle. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Ici, littéralement, pour le verbe arriver, une chose qui est sur le point d'arriver, arriver, littéralement, il est en train de dire quelque chose qui est en train d'éclore. Vous savez, comme une plante. Il y a un tout petit frémissement, il y a une toute petite pousse de vie. Vous avez déjà vu des petites plantes ? Des toutes petites pousses de vie. Ce n'est pas grand-chose. Et Dieu dit, il y a une chose nouvelle qui est, je vais faire arriver, je suis en train de la faire éclore. Elle va s'élever, elle va se développer. C'est tout ça la signification du verbe arriver ici. Éclore, pousser, s'élever, se développer. Exactement la terminologie qu'on emploie pour les plantes. Elle va, une fleur, elle va éclore. C'est en train de germer, c'est en gestation, il y a une petite pousse qui est en train de sortir. Mais si je vis dans la lourdeur de mon passé et que je ne reconnais rien à ce que Dieu veut faire ou que je ne comprends pas la nature de Dieu qui fait que des choses nouvelles, moi, avec mes gros sabots, je vais passer dessus et je vais l'étouffer et je vais l'étrangler et je vais décourager, je vais casser, je vais parler, je vais assassiner, je vais massacrer, je vais détruire. Une chose nouvelle qui est en train d'éclore. Je t'en supplie, mon frère, ma sœur. Sois aussi prudent avec ta langue, avec tes pensées, avec ton agenda, avec tes priorités, avec ta vie, avec tout ce que tu fais. Sois aussi prudent dans ta propre vie, dans l'Église. Sois aussi prudent que tu l'es avec une toute petite plante. Et quand tu marches, tu fais « je ne veux pas l'écraser ». Parce que l'œuvre de Dieu... Il faut qu'on le comprenne. Elle est aussi fragile qu'elle est belle. Je vous l'ai dit hier soir, il faut longtemps pour construire. Et il faut 5 minutes pour détruire. L'œuvre de Dieu, elle est magnifique. C'est un pur miracle. L'Église est un miracle. Mais cette œuvre de Dieu est tout autant fragile qu'elle est belle. Et je dois être extrêmement prudent. Des fois, des frères me disent « Ouais, dans mon église, ça ne va pas assez comme si. » Je dis « Ah bon, toi aussi ?»« Ouais, dans mon église, ça ne va pas assez comme ça. » Il m'énerve. Je dis « Ah bon, t'énerve pas, ça ira pas plus vite. »« Ouais, dans l'église, c'est pas ça. » »« Mais comment on fait ?» Je dis « Ben écoute, j'ai pas beaucoup d'années de ministère, j'ai que 10 ans de ministère. » Mais j'ai appris une chose, c'est que l'église de Jésus, c'est pas une Ferrari. C'est un paquebot avec du cristal à l'intérieur. Et il y a marqué « Attention fragile. » Et l'église de Jésus... Il faut la manœuvrer avec extrêmement de douceur, extrêmement de précaution. C'est un paquebot avec du cristal à l'intérieur. L'œuvre de Dieu est autant fragile qu'elle est belle. Dieu veut faire une chose nouvelle. Il a toujours fait des choses nouvelles parce que c'est dans sa nature. Au même titre que hier soir on a dit, c'est dans la nature de Dieu d'être un, que nous soyons un. L'unité, c'est la nature de Dieu. Au même titre que son amour, sa patience, sa paix, sa joie, sa sainteté, sa justice. Eh bien, faire des choses nouvelles, c'est Dieu. Et si moi, je suis toujours en train de vivre dans le passé et que je suis toujours en train de mépriser ce qu'il peut y avoir de nouveau sous prétexte que ça ne me convient pas, et je suis contre la nature de Dieu. Dieu fait toujours des choses nouvelles. Maintenant, si vous trouvez dans la parole une photocopie de méthode, ou vous trouvez une photocopie divine, vous venez me voir. Hein. Mais Dieu a toujours eu le même fond, mais jamais les mêmes formes. Et qu'est-ce qu'il faut à l'église de Manosque ? Léandro vous l'a dit. Il a dit, il vous faut un fond qui soit fort et des formes qui s'adaptent. Il vous faut, église de Manosque, un fond qui soit fort et des formes qui s'adaptent. Le fond ne change pas, mais les formes changent. Parce que Dieu fait toujours des choses nouvelles et sous des formes différentes. Ne la connaîtrez-vous pas ? Le verbe connaître ici est traduit littéralement le verbe s'apercevoir. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de frémir ? Tu ne vois pas qu'il y a une pousse de vie nouvelle qui est en train de germer ? Soit en toi, soit dans ton frère, soit dans ta sœur, et qu'il va falloir que tu sois extrêmement prudent avec cette germe de vie. S'apercevoir, comprendre, discerner, ne la discernerez-vous pas ? Je suis en train de faire une chose nouvelle, ne la discernerez-vous pas ? Tu ne vas pas voir que c'est Dieu qui est en train de faire ça ? Tu ne vas pas comprendre que c'est Dieu qui fait ce qu'il veut ? La vision, c'est la vue sur l'invisible, c'est ce qui existe déjà dans le cœur de Dieu. Alors moi, je suis là dans le jeûne et dans la prière ce soir pour dire, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, montre-moi ce que tu veux faire de nouveau. Montre-moi ce que tu veux faire de nouveau. Et que surtout, par ta grâce, ma vie serve à favoriser cette œuvre nouvelle. Mais qu'elle ne soit pas un frein ou un extincteur. Le nouveau, ça fait toujours bizarre, hein. La nouveauté, ça nous met mal à l'aise parce que ça sent l'inconnu, ça sent la perte de contrôle. Oh, mais on ne faisait pas ça avant. Ben oui. Vous savez que notre vie est remplie de choses qu'on n'a jamais faites. Parce que vous savez qu'avant d'aller à la piscine, vous n'aviez jamais été à la piscine. Avant de faire du vélo, vous n'aviez jamais fait de vélo. Et un jour, vous l'avez fait. Vous savez qu'avant d'être marié, vous n'aviez jamais été marié. Enfin, je préfère. Et des fois, il peut y avoir des cas particuliers, on comprend, que personne ne sente mal à l'aise. Avant d'être chrétien, vous n'aviez jamais été chrétien. Avant de parler en langue, vous n'aviez jamais parlé en langue. Puis un jour, par la foi, vous l'avez fait. C'est tout. Avant de prier tous ensemble, comme on le fait maintenant, vous aviez peut-être jamais prié tous ensemble. Je ne sais pas, j'étais pas là. Moi, je n'ai pas l'historique de 40 ans. Hein. Ah, on n'avait jamais fait ça. Avant de chanter sur les j'aime, vous aviez jamais chanté sur les j'aime. Il y a des jeunes, ils font... Oui, parce qu'ils savent sur quoi on chantait avant. C'était ni pire, ni mieux, c'était différent, c'est tout. C'était une autre époque. Eh oui. Dieu veut te faire faire des choses nouvelles. Il veut te faire faire des choses que tu n'as jamais faites. Parce que c'est dans sa nature. Il fait des choses nouvelles. C'est l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de l'Église, c'est l'histoire des saisons, c'est l'histoire du renouveau, c'est l'histoire du printemps, c'est l'histoire de la résurrection. Et c'est ce que disait Esdras hier soir. C'est pour ça que nous jeûnons. L'œuvre qu'il prépare est trop grande. C'est pour ça que nous jeûnons. Nous jeûnons et nous prions pour préparer l'avenir. Pour entrer dans un avenir nouveau. Je veux entrer dans la vision de Dieu, dans la vision de ce que doit être l'Église, de ce dans quoi elle doit entrer. Je veux avoir la vision de dans quoi l'Église doit entrer, et de ce qu'elle doit être, et de ce qu'elle doit faire. Et ce ne sera pas comme dans le passé, non. Le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est de jeûner et de prier pour retrouver la vision des captifs, retrouver la passion des perdus. Vous savez, le jeûne et la prière, alors que j'ai faim physiquement, le jeûne me permet de ressentir, puisque je ressens des manques, le jeûne me permet de ressentir la faim de Dieu. Sa faim à lui. Il n'a pas faim physiquement, mais il a faim spirituellement. Dieu a faim de manifester sa grâce, sa gloire et sa puissance dans les vies. Dieu a faim, il manque d'âme, il manque de perles sur sa couronne, il manque de racheté, il manque de brebis. Et Dieu a faim et soif, permettez-moi l'expression, Dieu a faim de sauver, Dieu a faim de guérir, Dieu a faim de reconstruire des vies, Dieu a faim de ramener des captifs, Dieu a faim de faire naître nouveau, Dieu a faim de répandre son esprit. Et quand je suis dans vraiment le vrai jeûne et la prière, et que je suis vraiment connecté à lui, je dois ressentir cette faim de Dieu pour les perdus. Cette faim qu'il éprouve pour les captifs. Je jeûne et je prie pour retrouver la vision des captifs, la vision des perdus. Savoir les voir comme Dieu les voit. Nous ne voyons pas nos captifs, nous ne les voyons pas comme Dieu les voit. Parce que Dieu sait déjà ce qu'il veut faire avec eux. Lorsque la brave mamie qui a été témoignée à mon beau-père pour la première fois dans la rue, alors qu'il avait des couteaux et du shit sur lui, qu'il avait des cheveux jusque-là et qu'il ne s'était pas lavé depuis plusieurs jours, la sœur, dans le jeûne, c'est dans le jeûne et dans la prière, elle avait vu le visage de mon beau-père avec les jeunes qui étaient autour d'elle. Elle a vu, dans le jeûne et dans la prière, elle a vu son visage et quand elle a été le voir, elle savait exactement que c'était lui et elle savait exactement que Dieu allait lever des ministères. Et elle ne s'est pas laissée arrêter par la réaction. Parce que la première réaction de mon beau-père, c'est qu'il l'a attrapé, il lui a craché dessus, et lui a dit « Il n'y a pas de Dieu ». Elle est rentrée, elle a recommencé à jeûner et à prier, elle est retournée les voir. C'est la puissance de la vision. Voir comme Dieu voit. Quand Dieu a été chercher Moïse, il n'a pas vu un meurtrier, il a vu un libérateur. Quand Dieu a été chercher Saul de Tarse, pendant que l'Église était en train de souffrir, mais vraiment de souffrir, relisez, il ravageait les Églises. Pendant que l'Église était en train de souffrir sous la main de Saul de Tarse, mais Dieu, lui, il voyait le plus grand apôtre, si vous me permettez l'expression. Du pire, il voyait le meilleur. Quand tu souffres avec certaines personnes de ta famille ou de ton entourage, qu'est-ce que tu vois ? Des problèmes ? Des montagnes ? Des impossibilités ? Qu'est-ce que tu vois ? Tu vois avec tes yeux humains ou avec tes yeux spirituels ? Le jeûne et la prière me permettent de décrocher d'avec le visible et de commencer à avoir une perspective dans l'invisible, de voir ce qui n'existe pas ici-bas, mais ce qui est déjà prêt dans le cœur de Dieu. Et nos captifs, nos exilés, Dieu les voit. Il les voit déjà rétablis. C'est dur, ça. Hein ? Et si on les voyait comme Dieu les voyait, ça changerait toute notre façon de prier. Il y avait des captifs, il y avait des exilés. Dieu les voyait, il les voyait depuis longtemps, il les voyait déjà rétablis, il les voyait déjà rentrés, il les voyait déjà dans la bergerie, il les voyait déjà actifs, il les voyait déjà à l'œuvre. Il avait promis depuis longtemps. Et c'est arrivé. La vision vient de la parole. C'est la parole qui doit alimenter notre vision de ceux qui nous entourent. Vous êtes toujours dans Esdras ? Esdras, chapitre 2, verset 1er. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, c'est le type de l'ennemi, ceux que l'ennemi avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Verset 3. Les fils de Paréoch, 2172. Les fils de Shephatia, 372. Les fils d'Arak, 775. Les fils de Pachat Moab, des fils de Josué et de Joab, 2812. Les fils d'Élam, 1254. Les fils de Zattu, 945. Les fils de Zakai, c'est pénible, hein? Les fils de Zakai, 760. Les fils de Bani, 642. Je comprends que si c'était votre lecture quotidienne ce matin, je comprends que ça a été dur. Hein. Il y en a qui sont fatigués ce soir, je comprends. Les fils de Bébaï, 623. Les fils d'Asgad, 1222. Et comme je vous aime, je vais m'arrêter là. Les fils d'Adonikam, 666. On va au verset 64, parce que je vous épargne tout le reste. L'assemblée, verset 64, l'assemblée tout entière était de 42 360 personnes. Et là, on se dit, qu'est-ce que j'en ai à faire? Non, mais il faut être honnête. Hein. On ne dit pas Amen, on dit qu'est-ce que j'en ai à faire. Seigneur, c'est quoi cette liste? Qu'est-ce que j'ai à faire, Seigneur, de cette liste interminable de noms et de ce rabâchage de chiffres? Pourquoi? Parce que Dieu est précis. Le message de Dieu au travers de ces noms, c'est que Dieu est en train de me dire, tu te rends compte, je les ai tous vus, je n'en ai oublié aucun. Il a compté, il a pris en considération chaque personne, chaque âme. Dieu n'est pas seulement le Dieu des foules, il n'est pas seulement le Dieu des masses, il est le Dieu de l'individu, il est le Dieu de chacun, chacun qui forme un tous, un ensemble, mais le Dieu de chacun, des personnes précises. Seigneur, sauve les perdus. Quel perdu tu veux? Dis-moi des noms. Sauve les perdus, dis-moi des noms de perdus. Dieu est précis. Pourquoi Dieu a mis tout ça ici? Parce que si Dieu a compté les 2172 personnes de la famille de Paréoche, les 2172, il ne s'est pas trompé. Nous, à ce niveau-là, on compte plus. Les 2172 de la famille de Paréoche, c'est quand même pas tes deux enfants que le Seigneur va oublier. Ce n'est pas les quatre personnes de ta famille qui vont déstabiliser Jésus. Mais nous, on est déstabilisés parce qu'on n'a pas la vision. On sait intellectuellement qu'ils sont perdus, mais on n'a pas la vision de ce qu'ils sont déjà dans le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il manque une dimension à nos prières, à notre intercession. Nous, on les considère comme des montagnes, comme des impossibilités. Soit on finit par se taire, on finit par faire des compromis parce que quelque part on a un peu abandonné, on ne dit plus rien. Soit on est toujours sur leur dos, on leur rentre dedans et on rentre dans des combats qui ne servent à rien. Qu'est-ce qui va me sortir du silence? Qu'est-ce qui va me sortir de la guéguerre charnelle? La vision. Retrouver la vision des captifs. Voir les exilés, voir les captifs comme Dieu les voit. Et ça, frères et sœurs, ça doit changer notre façon de prier. Pendant le temps de prière, frères et sœurs, j'aimerais qu'on prie de façon précise. On va prendre le temps, on va se lever, on va prier à notre place, on va prier en groupe. Voilà, je vous conseille de ne pas vous laisser voler ce temps par l'ennemi. Je vous conseille de vous faire violence. Je vous conseille avec amour de ne pas rester sur vos chaises, de ne pas attendre que ça se passe, de profiter de ce temps au maximum. Hier, on a commencé à prier les uns pour les autres et surtout pour les besoins des enfants des autres. Parce que souvent, on prie pour nos enfants. Mais tes enfants, tu ne les arracheras pas tout seul à l'enfer. Tu as besoin justement de la sœur que tu aimes le moins dans l'église, tu as besoin d'elle. Parce que sans unité, l'esprit ne fera rien. Et on a besoin de porter ensemble. Et j'aimerais que pendant ce temps de prière, comme hier, on ait de la liberté, qu'on se lève, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on oriente sur ce qui est ici. Je veux prier pour retrouver la vision de l'œuvre de Dieu. Je veux prier pour des victoires totales et définitives sur le passé. Je veux jeûner et prier pour entrer dans l'avenir que Dieu a pour l'église de Manosque. Je veux jeûner et prier pour le retour des captifs, pour la passion des âmes perdues. Je veux prier pour que Dieu réveille des esprits. Esdras 1:1. Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. C'est son œuvre. Moi, je peux que jeûner. C'est son œuvre. L'esprit réveille les esprits. Que des exiliés reviennent, Esdras 2, on l'a lu. Que vos captifs, Joël 3, dit Dieu, je ramènerai vos captifs. Joël chapitre 3, je ramènerai vos captifs. Je veux une église par l'esprit, dans l'unité, dans le jeûne et dans la prière. Et ça va produire du résultat. Amen.